Mesdames et messieurs, bonsoir. Il vient d'être à 18h passé de 15 minutes dans le studio Kalangou. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du forum de studio Kalangou qui a pour thème exécution du programme scolaire 2023-2024 à bilan du premier trimestre dans les établissements scolaires publics de Niamey. Le 2 octobre 2023, élèves et enseignants reprenaient le chemin des écoles. Selon le ministère de l'Éducation nationale, près de 4,5 millions d'élèves et plus de 100 000 enseignants ont répondu présents. Dans les zones en proie à l'insécurité, des écoles ouvrent au gré de la situation sécuritaire, notamment à Tillabéri, Attawa et à Diffa. Trois mois après, les cours se poursuivent normalement selon le constat du studio Kalangou. Le premier trimestre s'est achevé sans perturbation des cours ni d'arrêt de travail côté enseignants dans les différents établissements publics de Niamey. Alors, comment expliquer ce premier trimestre calme? Quel est le niveau d'exécution du programme scolaire dans les établissements scolaires publics de Niamey? Quelles leçons tirer de ce premier trimestre paisible? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Al-Mustapha Moussa. Il est le président de la Coalition nationale des associations, syndicats et ONG pour la campagne EPT au Niger, Asso EPT au Niger. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Madame Madi Mariama Hassan, elle est la présidente du réseau des femmes enseignantes du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base à Sinaseba. Bonsoir.
Bonsoir.
Labran Moussa Sanoussi, il est le délégué général de la commission exposé, conférence et débat de l'UNUN. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Le ministère de l'éducation invité n'est pas venu. Je suis Nafissa Adam Sirfo à la présentation. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du forum de Studio Kalangou. L'année académique a débuté donc dans l'ensemble du pays le 2 octobre 2023. Les cours scolaires sont programmés généralement pour durer 9 mois, découpés en 3 trimestres pour exécuter donc le programme scolaire du Niger. Alors je commence par vous, Madame Madi Mariam Hassan, vous êtes donc la présidente des enseignantes du SINASEB. Justement, quel est le programme officiel du Niger? Présentez-nous ce programme brièvement.
Merci bien. Le programme de l'enseignement du cycle, surtout du cycle primaire.
Oui, primaire.
Et nous savons que ce programme-là a été révisé en 2019. Dans la révision, il y a certaines leçons qui ont été biffées du programme qu'on juge inutile. Mm-hmm. Il y a certaines leçons qu'on a complétées à d'autres, qu'on estime qu'ils ont presque les mêmes idées. Mmh. Et du coup, le programme s'est vu rétréci.
Et que pensez-vous de cette révision faite à ce programme?
Je pense que c'est une bonne chose, la révision, mais vous savez, l'enseignant, il est l'artisan. Mmh. Il est au centre de cet enseignement-apprentissage. Mmh. Après la révision, il y a des disciplines qui n'ont pas de guide. Voyez-vous, le programme est bien révisé, mais si je prends par exemple les leçons de géographie, il n'y a pas de guide. Mm-hmm. Donc là, je vois qu'un travail aussi reste à faire. Il faut que chaque discipline révisée doit avoir son guide pour vraiment permettre à cet enseignant de bien jouer sa tâche.
Une révision que vous saluez, mais est-ce que brièvement vous pouvez nous dire que comporte ce programme aujourd'hui au niveau du primaire?
Oui, le programme du cycle primaire comporte les mathématiques, français, quand je dis français, orthographe, conjugaison, vocabulaire, tout ce qui a relation avec le français sont là-bas. Études du milieu aussi, histoire, géographie, les sciences naturelles, agriculture, sciences physiques sont deux.
Vous qui êtes sur le terrain aujourd'hui, comment ce programme est effectué?
Et l'enseignement se fait jusqu'à preuve de contraire, c'est dans la langue officielle.
Voilà, oui.
Oui, c'est le français. Mm-hmm. Mais les années dernières, on a commencé parce qu'on a vu vraiment l'utilité. Mm-hmm. À l'UF1, plus précisément au CI, il y a la langue. Mm-hmm. Dans une école, on sélectionne ceux qui comprennent, les enfants qui comprennent Haoussa, On fait une classe Hausa, CI Hausa.
Mm-hmm.
Et on sélectionne ceux qui comprennent le Zama.
Mm-hmm.
On fait une classe CI Zama.
Mm-hmm.
Mais sinon, les autres, du CP au CM2, cet enseignement est fait dans la langue officielle qu'est
d'accord,
le français.
D'accord. Merci bien. Donc, un programme bien exécuté. Alors, vous, monsieur Labran Moussa, vous représentez l'Union des scolaires au secondaire. Que pouvez-vous nous dire? Mais comment se porte aujourd'hui l'enseignement secondaire?
Merci de m'avoir posé cette question. Je pense que l'enseignement poursuit son cours normal, comme on l'a dit, parce que si vous faites les constats, nous, à notre niveau en tant que scolaire, ces deux dernières années, il y a moins de perturbations.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, vous pouvez le constater de vous-même, qu'auparavant, c'est très difficile de faire un trimestre 5 lits de grève, de la part surtout des scolaires.
Mm-hmm.
Mais cette fois-ci, les scolaires eux-mêmes, ils arrivent à prendre conscience. Il y a un certain changement de mentalité
mm-hmm.
au niveau des scolaires.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'ils agissent de façon très responsable, de telle sorte qu'ils arrivent à comprendre à chaque fois quand il y a des grèves, c'est les scolaires qui sont les perdants.
Mm-hmm.
Donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, les scolaires sont en train de répondre valablement à leur devoir. Au-delà d'être des scolaires, c'est lui-là de ce qu'on appelle des citoyens responsables.
D'accord. Merci bien. Alors, je viens vers vous, monsieur Al-Mustapha, le président de la coalition nigérienne nationale des associations syndicats et ONG pour la campagne EPT, Asso EPT. Vous venez donc d'entendre vos prédécesseurs ici au Niger. Que pensez-vous des différents programmes d'enseignement nigérien?
Merci, madame Nafissa. Le débat auquel vous nous conviez a véritablement tout son sens.
Oui.
Nous ne pouvons que véritablement vous remercier parce que vous êtes au cœur des événements.
Merci bien.
Vraiment, merci beaucoup.
Mmh.
Et vous l'avez dit, cette année, une année particulière, les différents acteurs qui sont là ont dit comment les choses sont en train de se passer.
Mmh.
Mais avant ça, il faudrait qu'on se rappelle les conditions dans lesquelles la rentrée a eu lieu. Il y a eu l'avènement du 26 juillet 2023.
Oui.
Au lendemain de ces événements, tous les partenaires qui appuyaient le système éducatif ont tourné le dos. Et les nouvelles autorités du pays se sont véritablement engagées pour redonner à l'école nigérienne ses lettres de noblesse.
Oui, c'est lettre.
Vous vous rappelez, madame Nafissa? Et la manière, je prends un exemple, et je parle sous le contrôle de la camarade,
mm-hmm.
la manière même à l'époque, les enseignants contractuels sont payés. Prenez le cas du Niger Post.
Mm-hmm.
Et aujourd'hui, on a fait en sorte que les contractuels perçoivent les salaires avant même, les pupilles du moins, avant les fonctionnaires.
Mm-hmm.
Vous voyez, donc, on a eu des autorités qui ont eu le souci de donner à l'école
nigérienne
ses lettres de noblesse.
Mm-hmm.
Et les partenaires sociaux que nous sommes, que ce soit les organisations syndicales, que ce soit les organisations de la société civile active en éducation, avant la rentrée, la ministre en charge de l'éducation a eu au moins 3 rencontres
mm-hmm. Sans vous
pour
couper,
que nous puissions
oui. mm-hmm.
pallier à toutes aux difficultés éventuelles qui peuvent mm-hmm. se poser.
Donc la rentrée,
voilà,
la rentrée oui, c'est effectué. Voilà. Dans des bonnes conditions.
Ça, le travail a continué.
Mm-hmm.
On a demandé aux enseignants et d'être résilient par rapport au contexte.
Mmh.
Et lever aussi des organisations syndicales de la société civile active en éducation. À l'époque, lors de toutes ces rencontres, nous l'avons dit, madame la ministre, nous l'avons dit même aux plus hautes autorités,
mmh.
ce que l'enseignant veut,
voilà.
qu'elle soit, mmh. il soit rétabli, qu'on le respecte dans son métier.
Mmh.
Et ça, ils sont en train de le faire. Ils viennent de confirmer que les cours sont en train de se dérouler normalement.
Les cours maintenant, sont par en rapport train au de programme, se... oui, le programme justement.
Par rapport au programme, effectivement, Madame Hassan l'a dit, le programme a été révisé à plusieurs fois
mm-hmm.
et ce programme a totalement... C'était une bonne chose de réviser parce qu'on l'adapte au contexte.
Oui, justement.
Mais la manière dont les révisions sont en train d'être, la manière cavalière dont les révisions sont en train d'être menées, c'est ça que les enseignants, c'est ça que les organisations ont dénoncé.
Mm-hmm.
Vous allez voir, on révise un programme et
c'est-à-dire
on vient...
C'est-à-dire tous les acteurs ne sont pas impliqués
à cette
révision.
Toi, Imachi. Et on vient, on prend le programme comme ça, on dit à l'enseignant de l'exécuter sans aucune formation ou bien même si on forme les enseignants, on prend tout juste quelques heures pour leur donner des quelques rudiments pour aller dire non. Mm-hmm. On a tellement contribué à rabaisser le système éducatif. Et heureusement, elle l'a dit, parfois c'est à travers leur propre initiative, à travers les mini-CAPED, à travers tout, que les enseignants sont en train de s'auto-former pour véritablement s'acquitter de leurs obligations. Donc nous avons des programmes très bien réfléchis, des programmes faits, mais malheureusement, dans le fond, dans la mise en œuvre, les acteurs principaux, Mme Hassan l'a dit, et le jeune frère aussi l'a dit, les enseignants qui sont au centre de la chose
ne sont pas
véritablement impliqués. C'est ce qui nous amène à continuer à faire, en tout cas, le plaidoyer. Et vous avez vu tous les acteurs. Aujourd'hui, le jeune frère a dit au niveau de l'USN, cette prise de conscience générale pour que les jeunes comprennent qu'on parle de leur avenir. Moi, je pense que vraiment, toutes les conditions ont été créées par ces nouvelles autorités. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris que le premier trimestre de l'année 2023-2024 et été caractérisé par cette accalmie-là.
Justement, donc, notre reporter Rafia a interrogé quelques directeurs et proviseurs d'établissements sur le bilan de ce premier trimestre dans ces établissements publics. Je vous propose d'écouter.
Maintenant, on a fait la première évaluation du premier trimestre. Et maintenant, on a fixé les dates ou le calendrier de la composition du fin du premier semestre. On est à 45% du taux d'exécution. Et donc, globalement, on peut dire que le cours se sont déroulé convenablement, comme ça se doit, comme il n'y avait aucune perturbation.
Bon, pour le cas quand même des perturbations au niveau des années précédentes, je crois que c'est dû quand même à un manque de communication, parce que les élèves en eux-mêmes, ils savent que vraiment il faudrait travailler, il faudrait se mettre au travail. Parce que le fait vraiment d'interrompre les cours, ça ne les arrange pas. Et à la fin de l'année, ils voient les conséquences, les résultats vraiment ne sont pas bons. Il y a vraiment un grand problème au niveau des résultats de fin d'année. Par exemple, vous prenez le cas du BPC ou du baccalauréat, on voit que le taux de réussite vraiment est très très faible. Oui, raison pour laquelle maintenant on a vu qu'il y a vraiment un changement. Les élèves ont pris conscience qu'il fallait travailler pour réussir et ils se mettent au travail maintenant.
Donc ici à l'école Poudreur 1, on peut dire que ça va dans l'ensemble. Car jusqu'à présent, on n'a rencontré aucun problème. Donc pour les enseignants, les messages que je peux dire, donc les enseignants doivent se ressaisir. Ils doivent suivre leurs élèves pas à pas, avec le renforcement des parents à la maison, pour que l'année soit en beauté et pour que les élèves puissent faire tout pour être des bons élèves.
Alors, un premier trimestre achevé dans tous les établissements scolaires publics de Niamey sans perturbation des cours ou arrêt de travail des enseignants, selon ces quelques responsables que vous venez d'écouter. Madame Madi, donc, vous confirmez cela sur le terrain?
Oui, merci une fois de plus, Madame Nafissa. Et je confirme. Et en ce qui est du cycle primaire que je maîtrise mieux, et si on prend par discipline, les mathématiques sont, dans certaines inspections, à 34,88%. Les mathématiques dans certaines inspections. Et dans d'autres, 40,33% les mathématiques. Côté français, dans d'autres inspections, 32,48% et dans d'autres, 40,16%.
C'est un constat que vous avez fait sur le terrain.
Oui, et c'est un sondage que j'ai eu à faire et une étude comparative. Et en étude du milieu aussi, 56,43%. Donc, ces chiffres laissent à croire que vraiment, ce premier trimestre-là s'est passé convenablement. Il n'y avait pas eu de problème. L'enseignement-apprentissage a été bien fait. Et si cet élan-là continue, on dira dans l'avenir que l'année aura une très bonne fin.
Maintenant, tout est calme. Qu'est-ce qui explique selon vous cette avancée aujourd'hui?
cette avancée est due à, depuis l'avènement, comme l'a dit mon frère, l'avènement du 26 juillet passé, à la veille de la rentrée, tous les Nigériens ont senti, qu'ils le disent ou pas, la volonté manifeste qu'on a vue du ministère de l'Éducation nationale. Parce que pour qu'il y ait rentré d'abord, il faut qu'il y ait les fournitures.
Justement.
Et les fournitures ont été acheminées à temps dans les régions. Donc vraiment ça, c'est un grand facteur. Et il y a aussi la volonté des structures de l'éducation.
On savait que dans le temps, les enseignants également revendiquaient autant de revendications. Aujourd'hui, est-ce à dire que toutes ces revendications sont épongées pour expliquer ce calme, madame?
Vous savez, madame, nous sommes... On fait face à un régime d'exception. Les revendications sont bien là. Une revendication qui nous tient à cœur. C'est le recrutement direct, je dis bien, des enseignants contractuels à la fonction publique.
C'est très toujours en stand-by,
Et en stand-by, on n'a pas oublié, mais nous sommes dans une situation de résilience. Et qui dit résilience, dit sacrifice.
Donc c'est un sacrifice que vous, enseignants, aujourd'hui, vous faites.
Oui.
D'accord.
Oui, mais les revendications sont toujours là.
Les revendications sont toujours là. Au niveau du secondaire également, monsieur Lebrun, dans les années antérieures, vous, les scolaires, vous avez eu à manifester violemment même pour revendiquer des meilleures conditions d'études dans vos établissements publics. Vous aussi, est-ce que ces revendications ou bien ces conditions sont réunies aujourd'hui ou bien c'est le sacrifice que vous êtes en train de faire également?
En fait, les revendications... Dans leur globalité, je ne pense pas qu'on peut avoir des solutions. Mais toujours est-il dit que, comme tous les intervenants ont eu à l'évoquer depuis le 28 juillet, les Nigériens, partout où ils se trouvent, ils ont compris l'impérieuse nécessité d'être résilients et en même temps de faire les sacrifices les plus ultimes. Les scolaires aussi se sont inscrits dans cette logique-là. Aujourd'hui, si vous faites le constat, ce n'est pas qu'il n'y a pas de revendications. Mais aujourd'hui, les scolaires font beaucoup plus leurs devoirs que de demander leurs droits. C'est-à-dire, on arrive à comprendre qu'en réalité, il ne s'agit pas toujours de revendiquer, mais il faut aussi poser les jalons. Étant citoyen surtout parce que les scolaires, dans leur globalité, ce ne sont pas en réalité des citoyens extraordinaires. Ils sont des citoyens comme tout le monde.
Justement, qu'est-ce qui était même à la base des mouvements, de vos mouvements d'humeur dans les années précédentes?
Dans les années précédentes, toujours c'est des revendications qui ne demandent autre chose que les conditions de vie, d'études. L'étudiant ne demande rien. Mais quand même, c'est quelqu'un qui se veut être dans ses droits. Aujourd'hui, les scolaires n'ont jamais demandé l'impossible. Tout ce qu'on demande, ça relève des conditions de vie, d'études, etc., etc.
D'accord. Alors, côté enseignant, côté scolaire, c'est le calme total. Un sacrifice, selon madame, qui est en train d'être fait. Alors vous, monsieur Al-Mustapha, qu'en pensez-vous?
Je ne peux aller que dans le même sens que ce que mes prédécesseurs ont dit. Nous sommes dans un contexte, pour utiliser ce langage courant, dans un contexte de Zantian Kassa Laboussani. Vous savez, ce contexte, les citoyens nigériens l'ont donné un contenu. Madame l'a dit, ils l'ont dit, c'est les Nigériens doivent être résilients. Face à ça, les autorités aussi ont compris qu'il faut mettre en avant le dialogue, le dialogue sincère, le dialogue constructif
entre les différents acteurs
de la communauté éducative. Et ça, je le dis, je pèse bien mes mots, je sais de quoi je parle. Je l'ai dit à l'entame de ce débat, qu'effectivement, avant que la rentrée n'ait lieu, la ministre a eu au moins 3 rencontres. Et chaque fois que les organisations syndicales les sollicitent, en tout cas, la porte elle est grandement ouverte. Du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, je sais de quoi je parle, parce que nous avons, au niveau de ASSO, nous avons l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants, qui est membre de ASSO EPT, qui, à chaque fois que, en tout cas, les étudiants sont sollicités. En tout cas, le président de l'Association nationale des parents d'élèves participe à ces rencontres. Nous savons aussi tout ce qui est en train d'être fait là-bas. Donc, vous voyez, quand on dialogue autour d'un problème,
on peut
trouver des solutions. Mm-hmm. Parce que même les guerres mondiales qu'on a connues, là, elles ont fini autour d'une table de négociation. Mm-hmm. Mais si on met en avant, les autorités ont compris qu'il faut mettre en avant le dialogue et ça nous permet d'anticiper sur des problèmes qui peuvent surgir.
Merci.
Maintenant,
donc,
avec votre permission, et aujourd'hui, elle vient de donner les statistiques.
Mm-hmm.
Même au niveau du secondaire, les statistiques, c'est la
tourne
même chose.
Tourne autour,
en tout cas, on est à 40 à 38% d'exécution des programmes. Ce n'est pas de la magie. Nous tous, que ce soit les élèves l'ont dit, les enseignants l'ont dit, et nous en tant que société civile, notre combat aussi a continué à faire le plaidoyer parce que auprès des partenaires financiers qui appuient notre système éducatif, pour qu'il ne faut pas que les gens se cachent derrière certains argumentaires fallacieux pour aller à l'encontre des droits à l'éducation.
D'accord.
Et c'est ce qui nous a amené à faire des plaidoyers auprès de certains partenaires qui sont encore restés et appuyés notre pays.
Merci
et nous pensons
bien.
Que nous allons
Merci
gagner
bien.
Ce pari-là.
Je rappelle que le ministère de l'Éducation a été invité, mais il n'a pas envoyé de représentant. Nous allons observer une courte pause. Dans cette deuxième partie, nous allons mettre l'accent sur le système éducatif nigérien. Justement, Madame Madi, vous qui êtes sur le terrain, aujourd'hui, comment se porte le système éducatif nigérien? Quels sont les problèmes?
Vous savez, dans nos jargons, si une personne est atteinte d'une maladie, le fait d'aller voir le médecin et que le médecin me met sous traitement ne me fait pas guérir tout le temps, à coup sûr.
C'est-à-dire donc?
Je m'explique. L'école là agonisait depuis très longtemps. Si on prend les 13 ans passés, l'école publique nigérienne était à terre. Et pour renverser les tendances là, il faut un travail véritable.
Qu'est-ce qui étaient donc les vrais problèmes qui amenaient l'école à agoniser en ce temps-là?
Le premier problème, il y a le manque d'infrastructures scolaires. Je vous avoue que, madame, dans des écoles publiques, le manque de tables bas, le manque de guide, les infrastructures pédagogiques, le manque de support pédagogique. Il y a le manque, qu'Allah nous aide.
Et l'effectif des enseignants était satisfaisant en ce temps?
Je reviens sur ce côté. Et il y a plusieurs écoles ou bien plusieurs inspections qui ont des problèmes de postes vacants. Donc, il y a ce problème-là. Mais ce trimestre-là, vraiment, et nous ne pouvons que féliciter tous les acteurs, à commencer par l'enseignant. Il y a des enseignants qui ont été affectés loin d'eux, mais qui ont fermé les yeux, qui étaient partis.
Parmi
parce que
eux, des femmes.
Des femmes qui ont été affectées loin de leur maison, mais qui ont fermé les yeux et qui ont répondu.
Mais ici, à Niamey, plus précisément, quels sont les problèmes de l'éducation ici, à Niamey?
À Niamey, les problèmes de l'éducation, je reviens, le manque d'infrastructures, surtout les écoles des périphéries. Il y a des écoles actuellement à l'heure où je vous
parle. Et comment se fait l'enseignement? À l'air libre ou bien?
Quand on prend les premières semaines d'octobre, c'était à l'air libre. Parce que il faut que les directeurs attendent la cotisation des COGES,
ces GDS
là, pour pouvoir faire les hangars. De ce temps-là, soit les deux niveaux sont mis dans une seule classe, ou bien les classes sont à l'air libre. Le grand problème aussi, Wallahi al-Azim, tant que cet enseignant-là n'est pas mis dans des bonnes conditions, l'école-là ne marchera pas.
Quelles sont ces conditions, donc?
Si je suis enseignant et que mon panier de ce qui fera de moi un enseignant est incomplet, voyez-vous, on me donne seulement un seul guide. sur la multitude de disciplines que je dois présenter. Mm-hmm. Voyez-vous, lors de la préparation, même avant de venir en classe, mm-hmm. wallahi, c'est une grande difficulté.
Mais est-ce que vous réclamez cela, non?
Mais bien sûr, mm-hmm. bien sûr, mm-hmm. on réclame ça. Mm-hmm. Mais vu que les choses étaient comme elles étaient, jusque-là, en tout cas, rien, mm-hmm. surtout sur le côté infrastructure. J'ai pas fini, mm-hmm. et si vous le permettez. Les classes de l'UF1 assis à même le sol.
Vous avez fait le constat, vous avez fait le tour.
Bon, c'est quelque chose que j'ai vécu.
Voilà.
Je sens ça en moi. Mm-hmm. J'ai vécu ça et donc je connais cette situation. Mm-hmm. Ça ne pourra pas aller. Au CICP, on demande à l'enseignant apprend à cet enfant à bien écrire. S'il n'y a pas de table banc. Pensez que l'enseignant était dans un dilemme. Mmh, mmh. Et quand un supérieur hiérarchique vient, cette enseignante-là, elle ne fait rien. Mmh, mmh. Or que les conditions ne sont pas vraiment...
Les conditions ne sont pas toutes réunies. Au niveau du secondaire aujourd'hui, quels sont les problèmes, les difficultés que vous rencontrez dans le bon
voilà, cours merci. De vos ans? Je pense que si vous faites les constats, le problème... des systèmes éducatifs au Niger mm-hmm. sont des problèmes qui sont identiques à tous les niveaux. Mm-hmm. C'est-à-dire, comme elle l'a évoqué, il s'agit justement des problèmes des infrastructures. Mm-hmm. À tous les niveaux, c'est un constat d'ordre général. Mm-hmm. Parce que surtout, au-delà du secondaire, à l'université, vous allez voir que c'est les mêmes infrastructures depuis 70.
Mm-hmm. Jusqu'à il n'y a pas eu de nouvelles...
Il n'y en a pas, et chaque année... Vous allez voir dans une seule faculté, mm-hmm. par exemple, je prends la fac des lettres, mm-hmm. vous allez voir que chaque année, on peut avoir plus de 5000 étudiants. Mm-hmm. Alors que c'est
les
mêmes...
pléthoriques.
Oui, c'est les mêmes infrastructures. Mm-hmm. Moi, je pense que là, le véritable problème même, c'est en période des examens.
Justement.
Vous allez voir, parce que là, même ceux qui ne viennent pas à l'école, forcément, il faut venir pour composer. Mm-hmm. Et le problème auquel on fait face... Vous allez voir, il y a des étudiants qui n'arrivent même pas à avoir des places pour composer. Mmh, mmh. Ce qui explique que, quelque part, ils ont cette volonté, ils ont cette vocation d'étudier, mais comme les conditions ne sont pas là, mmh. les étudiants se trouvent être découragés, mmh. malheureusement. Mmh. Du côté des enseignants, c'est comme madame l'a évoqué aujourd'hui, l'enseignant ne demande autre chose que son droit
oui, oui.
d'être mis dans des conditions qui vont lui permettre au moins d'être à l'aise lorsqu'il dispense le cours. Mmh. Mais un enseignant qui a toute une famille, qui dispense le cours et qui, voilà, les mois viennent de s'achever, il n'a pas été payé, mmh. c'est un problème d'ordre psychologique mmh. parce qu'on ne peut pas suivre des lèvres à la fois.
Alors, vous, Al-Mustapha, de votre côté, quels sont les autres problèmes, selon vous, du système éducatif nigérien aujourd'hui?
Merci, madame Nafissa. Notre système éducatif a connu, connaît et connaîtra des problèmes. Mmh. Au-delà des difficultés qu'ils ont énumérées, l'une des difficultés dont nous sommes, quand je dis nous, parce que nous sommes tous des Nigériens, mmh. C'est le fait que les gens ont accepté de déprofessionnaliser la fonction enseignante.
C'est-à-dire
de permettre à n'importe qui de venir enseigner. Mais madame le fils, moi aujourd'hui, je ne peux pas venir à votre place pour dire que je vais animer ce débat.
Mm-hmm.
C'est un peu professionnel. Vous avez fait
IFTIC. La base,
je pense que vous avez fait IFTIC.
Oui, oui.
Vous avez eu toute la base pour venir animer. Mm-hmm. Est-ce mm-hmm. que moi, enseignant là, vous voyez, même pour s'asseoir ici, chaque fois vous me mettez pour
effectivement.
Dire...
Effectivement.
C'est ça. On a accepté de déprofessionnaliser mm-hmm. la fonction enseignante. Mm-hmm. Ça, c'était une grosse erreur.
Mm-hmm.
Pire, nous sommes allés dans une logique de considérer l'éducation comme une marchandise,
mmh.
en acceptant de marchandiser l'éducation, en acceptant de privatiser l'éducation.
Mmh.
Je n'ai rien contre les écoles privées, je sais qu'ils contribuent, mais quand on accepte à certaines sociétés et autres là, de venir faire... Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde veut faire de l'éducation
mmh.
parce qu'on estime que là-bas, on va gagner de l'argent.
Mmh.
Non, on ne peut pas privatiser l'éducation.
Mmh.
Ça, c'est le deuxième problème. Et à tous ces problèmes, madame, On a vécu ça. Et aujourd'hui, nous avons vu ces mouvements impérialistes qui nous ont semé le désordre en créant l'insécurité dans notre pays. Vous avez vu la désolation dont aujourd'hui qui a amené beaucoup d'écoles à être faites. Le problème de sécurité a été aussi un des facteurs. Mais ils l'ont dit. Les gouvernements précédents, je ne sais pas, c'est inadmissible. La population nigérienne est en train de voler. Le jeune frère l'a dit. Les scolaires sont en train d'augmenter. Mais vous voyez, les infrastructures ont manqué. À l'université, à un moment, on nous a amené les trucs qu'on appelle les tentes quoi là, les tentes marocaines.
Oui, parlons donc d'infrastructures.
Même nous, à l'école primaire, là, on a dénoncé ça. C'était des trucs extrêmement chauds.
Parlant d'infrastructures, Madame m'a dit, en 2022, les autorités de la ville de Niamey de l'époque ont lancé l'initiative à zéro classe en paillote dans la ville de Niamey au cours d'une table ronde qui a regroupé donc les acteurs et partenaires de l'école nigérienne pour faire face au problème des incendies récurrents des classes en paillote à Niamey. Aujourd'hui, quel est le constat sur le terrain? Est-ce qu'il existe toujours des classes en paillote ou pas dans nos établissements scolaires publics?
Madame Nafissa, nous avons beaucoup de classes en paillote. Il y a des écoles qui ne sont même qu'en paillote.
Donc cette initiative zéro classe est laissée à elle-même.
En tout cas, cette initiative zéro classe-là, on ne sait, en tout cas, honnêtement,
en paillote,
on ne sait pas. Vous savez, les choses étaient comme elles étaient. On donne le marché à qui on veut, sans audit.
C'est un autre problème.
C'est un autre problème.
Parlant d'effectifs d'enseignement à Difa, plus précisément dans une localité Barwa, si je ne me trompe pas, des militaires ont décidé d'appuyer certains élèves pour manque d'enseignants, disent-ils. Qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous?
C'est un sérieux problème, comme mon frère vient de le dire. Être enseignant n'est pas à la portée de n'importe qui. Quelqu'un qui a été formé comme force de défense et de sécurité, pensez-vous que cette dernière-là pourra bien honorer le programme? Je dirais non.
Mais ils avancent le manque d'enseignants, donc...
C'est en tant qu'enseignant, en tant pour vraiment respecter cette corporation, l'État doit amener les conditions pour chercher des enseignants à ces enfants-là, parce qu'ils prétendent au même droit que les autres enfants qui sont dans les cités. Mais je conçois mal que quelqu'un qui n'a pas été formé pour être enseignant soit formé pour
Qu'est-ce
être enseignant.
Pensez-vous de
je n'ai pas fini. Pour raison de dire que c'est parce qu'il y a un manque d'enseignants. Non.
Vous, Al-Moussaf, que pensez-vous de cette initiative de ces
Sauf si...
Dans la zone, oui.
Sauf si c'est dans la zone, c'est pas pour les enseigner, pour les sécuriser.
En tout cas,
pour les sécuriser. Mais pour les apprendre le programme, je dirais que c'est vraiment paradoxal.
Qu'est-ce que vous pensez, vous?
Nous avons 8 vents et puis on a même des évidences où à l'issue, même à Tillabéri, à l'issue du forum que la ministre a organisé avec la communauté éducative, qu'effectivement des militaires ont accepté de façon volontaire aller pallier au problème d'insuffisance des enseignants.
D'accord.
En son temps, nous l'avons apprécié, mais comme l'a dit ma sœur, l'enseignement doit être exercé par des professionnels de la chose. Le fait qu'elles aient accepté, nous les en félicitons, mais nous avons dit effectivement aux autorités d'aller au-delà. Et nous avons vu dans la sous-région, dans certains pays, chaque fois je prends l'exemple, lorsqu'il y a eu la guerre civile au niveau de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on veut amener les enseignants dans la zone Korogo, nous avons vu de façon incitative comment on a créé les conditions pour permettre effectivement à des enseignants d'aller servir dans ces zones-là.
Dans ces zones, oui.
Mais nous, malgré ça, aujourd'hui, nos camarades, nos collègues ont accepté d'aller enseigner. La preuve en est qu'il y a une semaine de cela, il y avait notre camarade Abdrahman a été froidement abattu. Cela n'a pas découragé nos camarades. Ils continuent à enseigner.
Alors,
c'est ce qui nous amène, Hadja Nafissa, à plaider auprès du gouvernement pour que les enseignants qui sont dans ces zones, on puisse les motiver. Et ça, à se répéter, lorsque nous avons été reçus par le front, Fonds de solidarité, nous avons plaidé auprès de la présidente, Madame Bra Rachi, qui a eu une oreille attentive parce que nous avons dit notre vœu en tant que coalition à SOEPT, quand les fonds seront mobilisés, donc Allah de songer à ces zones-là où l'école a été totalement mise à rude épreuve par les groupes armés non étatiques. Nous avons dit que vraiment dans ce fonds, il faut qu'une part importante soit réservée à l'éducation. Donc vraiment, il faut saluer le courage. Il faut saluer le courage de ces militaires. Nous sommes d'accord avec eux. Mais quand la calmie va revenir, c'est d'aller dans le sens de ce que a dit la sœur. L'enseignant doit être exercé par des professionnels de la chose. Et Hadja, ce combat, nous l'avons gagné parce qu'aujourd'hui, les organisations syndicales, les organisations estudiantines et nous, en tant que structure active en éducation, nous avons gagné ce combat. Aujourd'hui, il est inadmissible qu'on prend n'importe qui pour venir enseigner.
D'accord.
Aujourd'hui, vraiment, ce combat-là, nous l'avons gagné. Mais notre vœu, c'est que l'enseignant soit véritablement
dans des conditions
pour qu'on puisse l'amener à exercer, qu'on demande de lui, il puisse véritablement.
Alors, Laurent, qu'est-ce que vous avez à dire?
Donc, moi aussi, ma réaction par rapport à cela,
rapidement, nous allons
je pense que c'est comme ils ont dit. Aujourd'hui, l'enseignement, c'est le plus noble du travail au monde, sans vouloir remettre en cause les autres travails. Mais ce qu'il faut encore comprendre, comme ils ont dit aujourd'hui, donner la destinée d'une éducation, par exemple, à quelqu'un qui n'a pas suivi une formation pédagogique, moi, je pense que c'est comme si on vous amène, on vous donne une arme pour aller affronter les ennemis. Pourtant, vous n'avez aucune formation. Ce qui explique que moi, à mon sens, vraiment, il va falloir mettre toutes les conditions, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre, il y a des chômeurs qui sont là, des Nigériens qui sont formés dans ça.
Nous arrivons à la dernière partie, voilà. Justement, malgré vraiment que le système éducatif nigérien se porte mal, les cours se poursuivent normalement pour cette année académique, déjà un premier trimestre qui s'est achevé sans perturbation, dans une accalmie totale selon les constats. Alors pour terminer, madame, comment vraiment garantir une éducation de qualité à tous les enfants du pays aujourd'hui?
C'est vraiment une question qui mérite beaucoup de réflexion.
Selon vous,
selon moi, une éducation de qualité à tous les fils du Niger, ça revient à un travail en amont. D'abord, je reviens, les enfants, les mettre dans des conditions requises de travail. Secondo, l'enseignant, lui fournir les infrastructures nécessaires pour sa présentation pédagogique. Parce que je vous dis que on peut bien avoir une classe très bien décorée, des très belles infrastructures, mais si l'enseignant n'a pas, toutes les conditions ne sont pas réunies, l'école de qualité là, il y aura aussi question mark.
Et quel appel aux autres enseignants pour vraiment réussir les deux autres trimestres qui restent et pour terminer l'année en beauté?
L'appel aux enseignants est aussi, bon, l'appel aux enseignants, c'est de continuer comme ils l'ont commencé. On a vu que déjà, si on prend le cas général, 40-45%. On estime qu'en avril, mai, déjà le programme sera épuisé. Donc, de continuer dans la même lancée qu'ils ont commencé.
Et vous, de votre côté, quel appel à vos camarades, vos frères et sœurs pour terminer l'année en beauté? Une année de qualité?
Ça doit revenir à une responsabilité collective. Dans la mesure où, quand on parle de l'éducation, il faut comprendre que tous les acteurs sont concernés. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons l'habitude d'entendre que l'école en réalité n'éduquent pas. C'est-à-dire, les parents, à leur niveau aussi, doivent faire un travail du maître. C'est-à-dire, quand l'élève sort, il faut vous garantir, est-ce qu'il est parti pour suivre les cours. Parce qu'il y a des élèves qui quittent la maison.
Il faut un suivi au niveau des parents.
Et c'est comme madame l'a dit, il faut que chaque élève, dans la mesure du possible, puisse avoir quelqu'un qui va au moins se les former à la maison.
Merci.
Au-delà de ça, maintenant, quand il faut venir parler des enseignants et consorts, il n'y a pas d'autre moyen que de parler des conditions.
Merci. Bien, alors vous, Al-Mustapha, rapidement, quel doit être l'engagement aujourd'hui de tous les acteurs éducatifs pour réussir cette année académique 2023-2024?
En tout cas, au vu de ce qui a été dit sur ce plateau, et au vu du constat, on peut dire, alhamdoulilah, si on continue sur cette lancée, le pari sera gagné. Mais il va falloir que les nouvelles autorités continuent d'abord à promouvoir le dialogue entre tous les acteurs. Ça, c'est un aspect cardinal. Et autre chose, l'éducation exige de nous un minimum de choses. Ils l'ont dit, c'est de faire en sorte qu'il y ait des infrastructures, un environnement sûr. Au-delà de l'environnement sûr, c'est de continuer à faire en sorte que les enseignants qui exercent sur ce terrain soit des enseignants professionnels. Il faut de temps en temps les outiller. L'autre aspect, c'est, je n'ai parlé de l'environnement sûr, il faut aussi que le matériel didactique soit adapté. Et maintenant, il faut aussi s'en féliciter qu'aujourd'hui, il y a un engagement des autorités à réouvrir les écoles fermées dans la région de Tillabéri. Nous avons visité ces écoles et vraiment des efforts considérables. On ne peut qu'encourager le gouvernement à aller dans ce sens-là.
Merci à vous tous. Merci, chers invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes donc au terme de ce forum. Les cours se poursuivent bien. Les programmes sont bien exécutés. Des programmes riches selon les invités présents ici dans ce studio. Il faut vraiment mettre ou bien impliquer tous les enseignants pour une mise en œuvre de ce programme. Alors, malgré donc toutes les difficultés du système éducatif nigérien, les enseignants, les revendications des enseignants, des scolaires sont en stand-by pour une question de solidarité aux nouvelles autorités de transition. Nous sommes donc au terme de ce forum. Nous étions en compagnie de M. Al-Mustapha Moussa, le président de la coalition ASSO-EPT, Mme Madi Maria Mahassan Jubo, présidente du réseau des femmes enseignantes du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base à Sinaseb, Monsieur Lebram Moussa Sanoussi, délégué général de la commission exposé, conférence et débat de l'UNUN. Merci à vous d'être venus. À la technique, c'était Chambiano Abdulkader, la régie vidéo Seni Saka. Je suis Nafisa Adam Sirfa à la modération. À très bientôt sur le studio Kalongo.